Mbandaka sur 103.
Comme l'avons dit, au sommaire, les personnes reconnues victimes des pillages perpétrés dimanche 3 et lundi 4 juillet 2005 sont descendues le mercredi 3 septembre dernier dans la rue et ils ont manifesté, c'était pour manifester leur ras-le-bol devant le refus de l'État congolais de les indemniser après le jugement rendu par le parquet et l'auditorat militaire. Pour rappel, l'État congolais a été condamné à payer 466 000 dollars à titre de dommages et intérêts pour le bien pillé par des militaires du camp Bokala. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. À quelle instance judiciaire ces victimes peuvent-elles recourir pour entrer dans leurs droits? Nous en parlons avec Jean-Michel Liboula Mopolo. Jean-Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR, bonjour également à tous les amis et bienvenue à Mbandaka, la chaleureuse.
Alors après cette marche organisée par les personnes reconnues victimes des pillages perpétrés dimanche 3 et lundi 4 juillet 2005, quel est le résultat obtenu après cette marche?
C'était un coup de feu dans l'eau apparemment parce que rien n'a été donné après cette gigantesque marche qui a mobilisé. Plus de 200 personnes, Ramou, Samsam, Amin, tout le long des artères de la ville de Mbandaka. Essayez d'abord d'écouter l'ambiance qui a régné ces jours-là dans les rues de Mbandaka.
La présence au cas de Mbandaka était tellement impeccable parce que à l'époque les gens vivaient très bien. Il y avait ceux qui voulaient aller commettre des gars pour venir à la prison parce qu'il y avait tout et tout. Il y avait la nourriture en abondance et les gens mangeaient très bien. Ils vivaient dans les meilleures conditions, je peux le dire. Ils étaient même habillés et pouvaient soigner alors s'ils étaient malades parce qu'il y a eu un hôpital à l'époque. Ces dispensaires-là traitaient toutes sortes de maladies. Les docteurs étaient là, ils venaient au moins deux ou trois fois. Mais les assistants étaient en permanence avec les infirmiers. Il y avait aussi une chapelle où les prêtres venaient donc célébrer la messe à l'intérieur de la prison.
Mais voilà, dommage, on va revenir sur ce qu'a été l'ambiance de cette journée. Mais en fait, on poursuit avec vous, Jean-Michel Liboula. Qu'est-ce que ces gens proposent comme solution? Parce que, selon nos sources, c'est depuis 2005 qu'ils ont été pillés et après, ils ont gagné le procès. Le jugement a été déjà rendu par le parquet et l'auditorat militaire. Pour dire quoi, l'État congolais qui a été condamné à payer 466 000 à titre de dommages et intérêts. Alors, qu'est-ce que ces gens, les manifestants, proposent concrètement?
Oui, pour revenir d'ailleurs à votre première question, je vous dis que si ces gens sont descendus dans la rue, vous l'avez bien dit, c'est pour estimer les ras-le-bol. C'est-à-dire que les parquets et les tribunaux militaires, les tribunaux militaires, avaient déjà prononcé la peine à insister sur plutôt sur l'État congolais et qui a été obligé de dédommager les victimes de ce pillage. Jamais depuis 2005, vous l'avez dit, jusqu'à aujourd'hui, certains militaires au dire des victimes ont été démobilisés, d'autres ont monté même le grade dans l'armée, ils ont quitté Mbandaka, ils ont quitté la prison, ils sont partis ailleurs. Mais les victimes n'ont jamais reçu un moindre point de dommage. Et c'est comme ça que ils sont descendus dans la rue le mercredi 3 septembre dernier. Mais ils n'ont rien obtenu. Ils demandent que l'État congolais puisse leur donner leur aide. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Ça, c'est votre deuxième question, JR. Ces gens disent que l'État congolais trouve que 466 000 dollars, c'est donc une mère à boire, on ne peut pas leur payer. L'État congolais demande à ses victimes de revoir à la baisse le montant qu'il leur doit. Ils disent qu'ils sont d'accord, mais à condition que l'État congolais puisse plutôt échelonner la paye. C'est-à-dire payer par tranche au lieu de rabattre, parce que, comme l'a dit Maître Lambert Lutik, avocat conseil des victimes, il n'est plus possible de négocier la somme qu'il doit débourser pour indemniser les victimes après que le gouvernement ait été prononcé la décision en juin.
Voilà, alors 466 000 dollars américains, c'est pour combien de victimes exactement?
Ils sont environ 300 personnes qui ont été reconnues. victimes, là-dedans, j'ai faut compter également des femmes violées, des gens qui ont été tués par balles, parce qu'il faut rappeler que les troupes qui avaient marché sur le Mbandaka sont les mêmes troupes qui avaient commis des viols massifs à Songomboyo dans le Bongandanga, et ce sont les mêmes troupes après ces forfaits qu'ils ont commis à Songomboyo, ils ont été transférés en Mbandaka dans le cadre de réaménagement, de regroupement des forces armées après la rébellion, et ce sont les mêmes troupes qui avaient commis ces forfaits, ils ont tué, ils ont violé, même les hommes avaient été violés.
Donc si je comprends bien, il y a plusieurs victimes avec plusieurs cas enregistrés, donc là, le problème d'indemnisation se pose, mais avec à des degrés différents.
Tout à fait des décès différents, mais c'est vrai, il y en a qui ont connu
des décès
dans leur famille, d'autres seulement des cas, d'autres encore ont été tués et puis les biens ont été, les femmes ont été violées et les biens emportés. Donc à plusieurs niveaux, et chacun, tous n'ont pas la même situation.
Mais voilà, alors le gouvernement propose de revoir à la baisse le montant des dommages et intérêts, c'est cela.
Tout à fait. Le gouvernement dit que pour l'instant, il est confronté à d'autres priorités. Payer 466 000 dollars, c'est donc une mer à boire. Il veut bien indemniser les victimes, mais il demande à ces victimes de revoir à la baisse le montant qu'il doit leur verser.
Et le jugement qui a été rendu par le parquet et l'auditorat militaire est intervenu quand exactement? C'était à la même année, en 2005?
Non, ça a pris du temps hier, ça a pris beaucoup de temps, énormément de temps. D'autres victimes ont même décédé en attendant le rendement, plutôt la décision du tribunal. Mais le forfait a été commis, vous le savez, le
4
septembre juillet 2005. Mais le verdict, la décision du gouvernement n'est tombée qu'en
2007. Donc une année plus tard, ces gens ne rentrent toujours pas dans leurs droits. Nous en saurons un peu plus avec notre invité, Dominique Kamwandu, d'avocat de l'ONG Avocat à Sans Frontières, qui est d'ailleurs dans ce studio. Et avec vous, Jean-Michel Iboula, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, sinon on s'arrête là.
Peut-être que la chose à ajouter, c'est que ces gens, dans leur marche, ils ont fait ce qu'on appelle la marche pacifique, pas de casse, rien du tout, pas de chants hostiles. Ils ne manifestent que leur ras-le-bol. Ils ont parcouru toutes les institutions, ils sont passés d'abord par l'hôtel de ville, ils sont allés devant l'assemblée provinciale, ils sont allés devant la troisième région militaire, l'inspection provinciale de la police, même devant le bureau de la maire, ils sont allés devant les bâtiments d'initiative où travaille le gouverneur de province. Ils ont terminé leur marche pacifique devant le bâtiment du quartier général de la Monnaie. Et à tous les niveaux, ils ont remis les exemplaires de mémo qu'ils avaient rédigés pour réclamer bien que la justice se joue.
Alors, une précision, est-ce qu'il s'agit du gouvernement central ou du gouvernement provincial?
Mais selon les victimes que nous avons interrogées, ils disent que la correspondance qu'ils avaient réceptionnée à travers Maître Lambert Lissouka, qui est leur avocat conseil, cette personne serait venue, je parle bien conditionnel, serait venue du gouvernement provincial. Mais ça sera, est-ce que c'est vrai que c'est le gouvernement provincial qui est en train de marchander, de négocier les rabais de ce montant à payer? Et là, il faut poser la question. Nous avons tenté d'entrer en contact avec le ministre provincial de la Justice et il a dit qu'il venait de prendre ses fonctions à ce ministère. Il n'a pas la maîtrise de ces dossiers et donc il n'a pas la réponse exacte à fournir à ce sujet.
Et pourtant, il y a ce principe de continuité de l'État. Nous allons vous retrouver très prochainement, Jean-Michel Liboula, sûrement dans un autre dossier. Merci, à la prochaine.
Je vous en prie.
Okapi, Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle, avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français. Okapi.
Maître Dominique Camondo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, Maître Dominique, une somme retenue comme titre des dommages et intérêts pour le bien pillé peut-elle être changée ou revue à la baisse par un condamné?
Merci beaucoup. Hier, on précise d'abord que lorsqu'il y a une décision de justice et que cette décision est coulée à force des choses jugées, c'est-à-dire elle est devenue irrévocable, on doit l'exécuter. Au niveau des tribunaux, il y a des greffes et des huissariats d'exécution qui s'occupent de suivre la procédure pour pouvoir exécuter la décision. Lorsque la personne condamnée ne s'exécute pas volontairement, on peut exécuter par les autres voies du droit, c'est-à-dire par contrainte, par ce qu'on appelle l'exécution forcée. Et lorsque une décision est rendue, en principe, elle doit être respectée par les parties. Mais lorsque l'une des parties n'est pas en mesure d'exécuter la décision et qu'elle est de bonne foi, les parties peuvent convenir de transiger, c'est-à-dire ils se mettent d'accord que voilà, la décision est rendue, nous la respectons, mais vu telle circonstance exceptionnelle, nous pouvons procéder à un arrangement pour pouvoir désintéresser la partie préjudiciée. Les parties peuvent transiger de leur commun accord, cela est possible.
Et cela est possible. Mais alors, revoir très systématiquement la somme à la baisse, ce n'est pas, comme pour dire, la justice, disons, remet à la case de départ tout ce qui a été déjà fait au début.
Non, ce n'est pas la justice qui revoit. Lorsqu'une décision est rendue, le tribunal qui l'a rendue est dessaisi. Et le tribunal ne peut plus se prononcer sur cette décision. S'il n'y a pas eu appel, s'il n'y a pas eu des voies de recours, s'il y a eu des voies de recours, la juridiction saisie en appel peut revoir la décision du premier juge. Mais s'il n'y a pas eu non plus appel et que l'affaire a été close au niveau des instances judiciaires, la décision est devenue irrévocable, comme on dit là, l'instance judiciaire ne peut plus revoir cette décision, elle reste comme ça intacte. Mais si, de commun accord, les parties peuvent librement consentir de trouver d'autres voies ou de trouver une solution qui tienne compte des intérêts des uns et des autres, les parties peuvent transiger. Mais ce n'est pas le tribunal qui va revoir la décision déjà rendue.
Oui, oui, au niveau des particuliers ou des privés, ça ne pose pas de problème. Mais quand il s'agit de l'État, parce que c'est une personne morale, l'État est représenté par les différents ministères, ça c'est connu, mais on sent comme s'il y a une certaine lenteur. Parce que l'État, dans bien des cas, il y a beaucoup de procès que nous avons pu enregistrer dans ce pays, où le jugement a été rendu au bénéfice de la population et au détriment de l'État, mais c'est pose toujours le problème des indemnisations.
Effectivement, le problème se pose, on se rend parfois compte que les structures habilitées à pouvoir indemniser n'ont pas des moyens qu'il faut pendant qu'il faut indemniser, ou parfois on peut dire aussi qu'il n'y a pas une réelle intégration, une réelle pénétration de la notion d'état de droit vis-à-vis des animateurs des institutions publiques, parce que l'état de droit veut dire que lorsqu'il y a une décision de justice rendue, c'est-à-dire que cette décision ou la loi s'impose à tout le monde, y compris les personnes publiques, et celles-ci doivent la respecter. Et c'est là qui consolide la restauration de la confiance en la justice et même la consolidation de l'autorité de l'État. L'État doit d'abord commencer par respecter lui-même ses propres décisions.
Oui, il y a une décision qui est tombée en 2007 jusqu'en 2008. Il ne reste que 2 ou 3 mois pour que cette année se termine. Mais l'État ne s'exécute pas. Est-ce qu'il peut pas avoir de la part de la justice une exécution forcée?
Effectivement, l'institution judiciaire peut procéder à l'exécution forcée, mais pour ce qui concerne l'État ou la personne publique, on doit faire la part des choses, parce que l'exécution forcée veut dire procéder par exemple à la saisie des biens pour les vendre et aux enchères les vendre en vente publique et désintéresser les parties bénéficiaires. Et maintenant, dans le cas d'espèce, on doit faire la part des choses parce que l'État ou les institutions publiques ou encore les biens de l'État sont destinés à un intérêt général. Il y a certains biens que l'on ne peut pas saisir. C'est pour cela que certaines parties se retrouvent en difficulté pour pouvoir faire exécuter des décisions de justice, des forces face à l'État ou face à des personnes publiques.
Mais qu'est-ce qu'on voit la législation congolaise quand on observe une certaine lenteur au niveau de l'exécution, par exemple, d'une décision rendue par le parquet?
En principe, la décision est rendue par le tribunal et si la décision a acquis, comme on dit, autorité de la chose jugée, si la partie condamnée ne s'exécute pas volontairement, on peut procéder à l'exécution forcée. C'est ce que prévoit la loi.
Ben alors, mais si, ici, maintenant, là, nous sommes en face d'une situation un peu impossible parce qu'on ne peut pas forcer l'État.
Non, la décision s'impose même à l'État, mais on peut procéder aussi à la saisie de certains biens de l'État. Les biens de l'État, par exemple, qui ne sont pas du domaine public.
Alors, pour l'état de fait,
les biens du domaine public sont les biens qui sont affectés à un intérêt général ou qui sont affectés à un service public. Mais l'État a aussi des biens qui sont du domaine privé. Ces biens peuvent être saisis selon la loi.
Maître Dominique, pour le cas d'espèce, toujours, il y a déjà eu jugement, mais c'est l'État qui ne s'exécute pas. À quelle instance ces populations peuvent-elles recourir?
En principe, lorsque, comme je disais, lorsque une décision est déjà rendue et que la décision a acquis autorité de la chose jugée, cela veut dire que la décision est devenue irrévocable, on ne peut plus la réformer, on ne peut plus l'annuler, il n'y a plus d'instance judiciaire pour pouvoir, il n'y a plus de voie de recours à interjeter en ce moment-là. Ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est de recourir au service compétent, c'est-à-dire les greffes d'exécution au niveau des tribunaux ou des juridictions qui ont rendu la décision pour pouvoir exécuter la décision de force, comme on dit, procéder à l'exécution forcée.
Mais les greffes travaillent pour l'État. Est-ce que vous voyez vraiment les greffes exécutées d'une manière forcée?
En principe, c'est la loi. Et la loi, nous disons que nous sommes dans un état de droit. La loi s'impose à tout le monde, à toutes les personnes, y compris les personnes des droits privés et les personnes des droits publics, comme l'État, comme les provinces et autres. La justice, c'est un pouvoir, bien sûr, mais dans l'exécution de ce pouvoir, la justice doit jouir de toute l'indépendance pour pouvoir mener ses actions avec efficacité. C'est pour cela que les services de greffe d'exécution ou justiciaires d'exécution doivent exécuter de force même des décisions rendues contre l'État.
Maître Dominique, soyez un peu plus concret et précis. Quels sont les moyens de droit que ces victimes peuvent exercer pour recouvrer le montant fixé à titre de dommages et intérêts?
En principe, lorsque la décision est déjà rendue et que on a fait la signification commandement, on a signifié l'initiatif commandement, les moyens de droit, c'est d'initier le tribunal. Le service compétent va procéder à la saisie et exécution, c'est-à-dire que dans le processus d'exécution du jugement, on va aller procéder à la saisie et exécution des biens de la personne condamnée. Et après, on signifie à la partie condamnée un délai pour qu'elle puisse s'exécuter. Si elle ne s'exécute pas, on procède à la vente. Bon, à ce moment-là, la saisie est déjà effectuée.
Ouais.
On procède à la vente publique. On donne un délai de 45 jours, on met les affichages. Si après, la partie n'était toujours pas exécutée, on procède à la vente et les recettes de la vente sont après à désintéresser les parties. Après jugement.
Après jugement rendu, quel est le délai accordé à la partie condamnée pour se faire exécuter?
En principe, dès que le jugement est rendu, on signifie les jugements, on laisse couler les délais d'appel. C'est-à-dire, il y a des délais prévus en matière civile, c'est 30 jours, en matière pénale, c'est 10 jours, on laisse couler ces délais après la signification des
délais.
Pour cela, il n'y a plus de délais. Si tout a été déjà fait, il n'y a plus de délais à observer. On doit procéder à... Si les délais d'appel sont passés, on a signifié... L'itératif commandement. L'itératif commandement donne un délai, par exemple, de 15 jours, 30 jours, et on a signifié l'itératif commandement. Et ces délais prévus est aussi passé. À ce moment-là, il n'y a plus de délai à observer. On procède à la saisie et exécution.
Mais en ce moment où les populations de Mbandaka sont en train de se faire, qu'elles peuvent faire concrètement?
Les populations de Mbandaka ont un avocat. Je précise même que Avocats sans frontières est intervenu dans ces procès pour assurer la défense des prévenus et l'assistance judiciaire gratuite des victimes pour que le procès puisse être équitable. Ils ont des avocats qui connaissent la procédure. Ce que les avocats doivent faire, c'est de veiller à ce que l'itératif commandement soit signifié et que si les délais est dépassé, initier de saisie, exécution sur les biens privés de l'État, sur les biens du domaine privé de l'État.
Ils ont des avocats, mais jusque-là, rien n'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque?
Non, le problème qui se pose, c'est qu'on a parfois difficile à pouvoir identifier parmi les biens de l'État quels sont les biens qui sont du domaine privé, parfois certains biens du domaine public. Il y a parfois des confusions, ce qui veut dire que parfois les personnes n'ont pas facilement accès aux biens de l'État parce que nous savons
que les avocats sont là pour les aider.
Effectivement, les avocats sont là pour aider et les avocats sont en train de les aider. Si les avocats n'étaient pas là, je pense qu'on n'aurait même pas abouti à la décision. Oui, certaines personnes se seraient fatiguées en cours des procédures.
Oui, encore faut-il que ces avocats trouvent réellement ces biens de l'État.
Effectivement, c'est ça aussi.
Mais
ça
n'existe pas.
On doit exhorter nos autorités à pouvoir commencer elles-mêmes par respecter la loi, respecter les décisions rendues, et cela fait que l'on puisse arriver à consolider la restauration de l'autorité de l'État et la restauration de la confiance en la justice. Je pense que les autorités doivent savoir que ce n'est pas parce qu'elles ont des prérogatives, comme on dit, des prérogatives exorbitantes, que pour cela, elles ne doivent pas veiller au respect des droits des citoyens.
Et une précision, Maître Dominique, parce que cette situation s'est déroulée en Bandaka, c'est un des chefs-lieux d'une des provinces de la RDC. Aujourd'hui, quand il faut parler de dommages et intérêts que l'État doit payer, est-ce qu'on parle de l'exécutif provincial ou il s'agit de l'exécutif central?
Dans le cas d'Espèce, je crois que l'État était cité comme civilement responsable, c'est-à-dire qu'il y a eu des militaires qui ont commis des infractions, ils ont été cités devant les tribunaux militaires des garnisons du Mandaka. Les militaires relèvent de la responsabilité du gouvernement, c'est le gouvernement qui devait veiller à ce que ces militaires ne puissent pas poser des actes préjudiciables à la population. C'est dans ce cadre-là, dans le cadre de leur service, que l'État a été cité comme civilement responsable. Et dans le cas de ce, l'État a été cité en la personne du gouverneur de province. Donc c'est au niveau de la province, au niveau du gouvernement provincial, que la décision a été signifiée. Dans les cas d'espèce, c'est le premier répondant, c'est le gouvernement provincial de Mbandaka.
Le gouvernement provincial de Mbandaka.
De l'Équateur, effectivement, en Mbandaka.
Maître Dominique, nous avons une réaction ici. Il y a un auditeur qui nous écrit de Kamina, il dit « L'État congolais doit dédommager ses victimes car il ne veille guère au bon encadrement de ses militaires et ne fait pas preuve de bonne volonté. » Vous avez un commentaire à faire?
Effectivement, c'est ce qu'on venait de dire, que l'État a été condamné en tant que civilement responsable. Les premiers responsables, les premiers auteurs, les premières personnes qui doivent exécuter, sur qui on doit exécuter les jugements, c'est les militaires condamnés. Mais face à l'impossibilité, c'est-à-dire ces personnes sont insolvables, c'est à ce moment-là qu'intervient la responsabilité de l'État en tant que civilement responsable de ces personnes. Effectivement, l'État doit dédommager les personnes bénéficiaires de ces jugements.
Oui, donc si je comprends bien, nous sommes là en matière civile.
Nous sommes en matière pénale parce qu'il y a eu des infractions
par les militaires.
Par les militaires.
C'est là où ça peut être confusion.
Non, nous sommes en matière pénale. Lorsque une infraction est commise, il y a deux intérêts en jeu. Il y a d'abord l'ordre public qui est troublé. C'est à ce moment-là que l'on parle de la peine qui peut être soit la prison, soit l'amende. C'est pour rétablir l'ordre public. Et il y a aussi les intérêts des personnes qui ont subi les infractions, qui ont subi des préjudices. Et là, ces personnes ont des intérêts civils à faire valoir. Et dans ces cas-là, il y a des condamnations civiles qui consistent en des dommages intérêts. Mm-hmm. Et si les personnes condamnées dans le cas d'espèce ne sont pas en mesure de répondre de ces jugements, on condamne solidairement avec eux leurs civilement responsables. C'est-à-dire qu'on les condamne ensemble. À défaut de l'un, l'autre est tenu de réparer.
Maître Dominique, est-ce que vous pouvez rappeler à tous ceux qui nous suivent que dit la loi par rapport à l'indemnisation des victimes, puisque ça arrive très souvent, pas seulement en Bandaka, ça arrive partout?
En principe, lorsque l'indemnisation est prévue, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour réparer les préjudices subis. Les préjudices peuvent être matériels, peuvent être moraux. Et selon la loi, le préjudice doit être réparer de manière intégrale. Et l'État, ou par la voie de la justice, les fixe conformément à la loi selon les préjudices subis par chacun des parties, chacune des parties ou chaque partie au procès. Et lorsque les personnes condamnées ont été condamnées solidairement en même temps que leurs civilement responsables, si les personnes condamnées directement ne sont pas en mesure de réparer, on peut s'attaquer ou poursuivre les civilement responsables pour pouvoir réparer à leur lieu et place.
Oui, Maître Dominique, nous avons une réaction de Mandaka. Nous allons suivre cette réaction et puis on revient à vous pour la suite de notre entretien. Ben voilà, il est en ligne, il est avec nous. Bonjour monsieur. Allô, bonjour.
Bonjour.
Alors, présentez-vous pour le bénéfice de nos auditeurs qui vous suivent en ce moment. Comment vous appelez ?
J'appelle Patrick, Patrick Nachiko.
Et vous nous appelez de Mbandaka ?
J'appelle de Mbandaka.
Quel est votre prénom ? Quel est votre
prénom ? Ma question va tout droit, monsieur Dominique.
Je vous écoute.
L'État n'arrive pas à décider, genre, à payer les budgets, c'est ça? Alors, on peut procéder au saisir, à
l'exécution forcée.
Bien de l'État, c'est ça?
Effectivement.
Ok. Mais, comme ici à Mandaka, on a des terrains vides ici, qui appartiennent à l'État congolais. Là, on a construit des maisons de l'État. Il y a plus de 200 euros dans ce terrain-là. On peut vendre un terrain à 2 000 $. Là, on peut avoir cet argent pour donner le victime.
Non, est-ce que vous avez pu répertorier tous ces terrains? Ça fait pratiquement combien de terrains? Parce que là, nous avons, il faut à l'État de réunir 466 000 $. Est-ce que ces terrains seront exactement ces nombres-là?
Écoutez, il y a parmi les maisons de l'État, il y a un espace. Presque plusieurs, probablement plus de 200 espaces, je vous dis vrai. Il faut dépêcher quelqu'un pour venir faire l'enquête. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'espaces, on peut vendre jusqu'à 2 000 $ par 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, quelque chose comme ça. On va avoir cet argent pour donner aux victimes.
Voilà, donc on va donner la parole à Maître Dominique. Maître Dominique, que reprenez-vous à cet auditeur?
Nous savons que selon notre loi, le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Dès lors qu'il y a de l'espace et que cet espace n'est pas affecté à un service public ou n'est pas affecté à un usage pour un intérêt général, il s'agit d'un bien du domaine privé de l'État qu'on peut saisir et vendre pour des intéressés, des bénéficiaires.
Oui, parlons des amendes, parce que dans bien des cas, on sait que la justice, quand quelqu'un n'obtempère à une décision de jugement rendu, dans bien des cas, il y a toujours des amendes. Est-ce que pour le cas d'espèce, quand l'État accuse une certaine lenteur quant à l'exécution d'un jugement rendu, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues, mis à part l'exécution forcée, est-ce qu'il y a des amendes qu'on peut payer?
Pour ce qui est de l'exécution, les amendes, je vais d'abord préciser que les amendes est une peine prévue par la loi. L'amende est une peine au même titre que la peine d'emprisonnement. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a commis une infraction, on peut la condamner à la peine d'emprisonnement ou à la peine d'amende, ou même parfois les deux. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'une personne a été condamnée à payer des dommages et intérêts, et qu'elle ne s'est pas exécutée, il n'y a pas d'amende, parce que l'amende doit être prévue par la décision qui condamne. Dans ce cas-là, on peut la condamner ou on peut lui demander de payer des intérêts moratoires dus au retard pendant tous les temps qu'on appelle des intérêts judiciaires, depuis le moment où la décision devait être exécutée jusqu'au moment de son exécution, mais
Les intérêts moratoires,
ça se calcule, c'est peut-être 12 à 7% là, ça dépend du temps que cela a pris, et ça peut se calculer si cela est prévu par la décision, c'est-à-dire que la personne peut être amenée à payer, pas seulement ce à quoi elle a été condamnée, mais cela majoritairement.
Et cet intérêt moratoire sera au bénéfice de victimes ou au bénéfice de celui qui a gagné le procès ou carrément c'est dans la caisse de l'État?
Non, les intérêts moratoires c'est au bénéfice de la personne qui a gagné le procès. Ce sont les amendes comme peine qui sont dues au trésor
Maître Dominique Commandou, vous êtes de l'ONG Avocats sans frontières. Merci aussi d'avoir été de nous et surtout merci d'avoir apporté tout cet éclairage autour de ce problème qui se passe à Mbandaka où les personnes reconnues victimes des pillages perpétrés dimanche 3 et lundi 4 juillet 2005 sont descendues le mercredi 3 septembre dernier dans la rue pour manifester leur ras-le-bol devant le refus de l'État congolais de les indemniser. Merci encore et bonne semaine.
Merci Gilles, merci Mounou.
Merci.
Je suis la mambo. Il y a le baba la mambo de l'école. Sophie, tu es le plus important. I'm not sure.